ポカピンポカピン、
et bien le groupe congolais Trigo avec la région de la Provence.
Bonsoir, province du Nord Kivu. Nouvel ultimatum lancé aux groupes armés par le gouvernement pour intégrer officiellement les FRDC ou rentrer à la vie civile. Comment analyser ce nouvel ultimatum adressé aux groupes armés du Nord Kivu? Et où en est-on avec le processus d'intégration et de réinsertion sociale des groupes armés dans les deux Kivus? Nos invités dans cette émission sont Joseph Asanda, porte-parole des ex-groupes armés du Nord et Sud Kivu. Il est en ligne. Bonsoir, Joseph Asanda.
Oui, bonsoir.
Ndiaga Diane, chef des opérations pour le DDR et le DD3R de la MONUC. Bonsoir, Ndiaga.
Bonsoir.
Professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous l'avez compris, tous les intervenants sont donc en ligne. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Province du Nord Kivu, les éléments des groupes armés résiduels ont une dernière chance d'intégrer officiellement les FRDC ou de rentrer à la vie civile. C'est à travers un dernier processus de désarmement, démobilisation et réinsertion auxquels sont notamment associés les FRDC et la MONUC. Cependant, les responsables du groupe Mai Mai Kifuafua déplorent le fait que les populations des zones dégarnies par leurs éléments sont à la merci des combattants SLR, comme l'explique Rosalie Zawadi.
Au moins 3000 éléments des groupes armés résiduels sont concernés par ces processus. C'est ce qu'affirment les chefs des opérations de la section DDR-FR de la MONUC. Diaga Diagne précise que ce processus va durer un mois et demi.
Ce dernier processus qui est le dernier, tout le monde est d'accord que c'est le dernier. La dernière chance offerte aux groupes armés congolais pour entrer dans le processus DDR. C'est-à-dire que si le combattant rate ce train-là, je pense que c'est fini pour lui. Actuellement, nous avons le programme, nous avons les moyens pour démobiliser les gens qui le veulent. Nous pensons que dans 45 jours, nous en aurons fini.
Il a ajouté que des équipes conjointes d'identification composées des membres de la structure militaire d'intégration, ceux du DDR, du PNUD, ainsi que des responsables militaires locaux sont à pied d'œuvre pour recevoir ces éléments. Déjà, plus de 400 éléments Mai Mai Kifuafua sont cantonnés à Walikale depuis la fin du mois dernier. Cependant, Didier Bitaki, responsable de ces groupes armés, déplore le fait que, depuis le départ de ces éléments, aucune force loyaliste n'a été déployée dans les villages de leur provenance, ce qui laisse les champs libres aux combattants FDLR qui ont déjà tué 4 civils en une semaine. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Merci Rosalie Zawadi. Ndiaga Diane, la MONUC à travers sa section DD3R est partenaire du gouvernement, on le sait, dans ce processus d'intégration et de réinsertion des groupes armés, et on sait également que plusieurs ultimatums ont été lancés aux groupes armés des deux Kivu par le gouvernement. Quel sens donnez-vous particulièrement à ce nouvel ultimatum, n'est-ce pas un de trop?
Bon, je ne pense pas que ça soit un de trop, mais ce dont je suis certain au moment où je parle, c'est-à-dire que ce sera le dernier.
Ce sera le dernier. Allez-y, ouais. Je vous en prie, allez-y.
Ce sera le dernier et il faudra noter que ce sont les groupes armés eux-mêmes qui ont demandé au gouvernement, à la communauté internationale, c'était le 2 novembre 2009, de terminer une bonne fois pour toutes le processus d'intégration de leurs hommes.
Mais c'est toujours la même question hein, que l'on se pose, ce n'est pas la première fois, et ce que vous dites là, ça a toujours été dit, et on revient presque à la case de départ. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, c'est la bonne?
Bon, pour commencer, il faut voir qu'au début du processus, lorsqu'on parlait de Amani, lorsqu'on disait que bon, on va faire les négociations de Goma et entamer le programme Amani, les groupes armés avaient présenté 38 950 combattants. Ben, ils avaient dit que dans leur liste, il y avait 38 905. Et maintenant, lorsque nous reprenons la liste actuellement au niveau des groupes résiduels, ce chiffre est tombé à 6878 combattants et 7161 policiers. Donc, ce qui signifie que nous sommes dans le cadre de résiduel. Seulement, nous devons, en menant à bien ce processus, faire attention. Parce qu'il y a toujours des groupes qui essaient de gonfler les chiffres. Si je prends, par exemple, même le groupe Tifoafo avec lequel nous avons commencé, selon les rapports que nous avions, nous devions nous trouver à plus de 1000 au niveau de Walikale. Mais les chiffres sont là, il y a 460. Donc, globalement, nous estimons que si nous faisons le processus dans son ensemble, et si nous faisons bien le travail, c'est-à-dire en identifiant les vrais combattants des civils, nous trouverons maximum autour de 3000 personnes.
Alors, avant de donner la parole à Joseph Assanda, on a senti dans le reportage de Rosalie, le ton que vous et la MONUC et le gouvernement utilisent est vraiment ferme. Est-ce la bonne approche?
Bon, je pense que ce programme-là a été fait d'un commun accord avec les groupes armés. J'ai dit et je répète encore que c'est pas un projet qui est sorti du néant. C'est un projet où on a eu à faire plusieurs discussions avec les groupes armés, y compris avec notre interlocuteur présent actuellement à Sanda, et tous les groupes, dont Didier Bitaki, que vous avez cité, ils ont tous participé à l'élaboration de ce programme. Donc nous avons tenu compte des contraintes des FRDC, de la PMC, des groupes armés, pour essayer d'éviter les passés. Exactement. Parce que, effectivement, si nous répétons, comme vous le dites, ce qui a été fait, nous habituerons exactement au même résultat. Donc, c'est pourquoi, cette fois-ci, nous avons pris soin de voir toutes les erreurs qui avaient été commises et essayer, ensemble, de les rectifier. Parce que dans ce processus-là, quand on parle d'équipe conjointe d'identification, il y a aussi les représentants du groupe armé. Il y a les FRDC, il y a la PNC, il y a nous tous, il y a la MONUC, DDR, Child Protection, tout le monde. Et nous y allons, nous traitons le dossier et nous passons au groupe suivant. Donc, lorsque nous finirons le processus, à mon avis, nous pouvons arrêter et dire Kapopo, groupe Kapopo, vous n'existez plus parce que nous vous avons traité. Groupe Kifoafoa, vous n'existez plus parce qu'on vous a traité. Groupe Maïmaï X, vous n'avez jamais existé parce que nous sommes allés là où sont supposés être vos éléments et on n'a trouvé personne. Donc je pense que cette fois-ci, l'approche que nous avons, si nous la continuons avec la même méthodologie, nous pouvons arriver à la conclusion, ensemble avec les groupes armés, pour dire que, écoutez, fini, c'est fini. Effectivement, nous avions dit que nous sommes temps, à tel endroit, vous y êtes allés, voilà le résultat.
Merci Ndiaga Diane, on vous garde tout au long de cette émission. Joseph Assanda, vous êtes porte-parole des ex-groupes armés du Nord et du Sud Kivu. Il y a cet auditeur, Ndambo Jean-Claude de Kalemi au Katanga, qui dit « Ce nouvel ultimatum n'apportera rien car les groupes armés sont habitués à ce genre de théâtre. » Comment vous avez reçu ce nouvel ultimatum?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Je vais dire que l'auditeur du Katanga, il est arrivé à dire ça, s'il dit que ce nouvel ultimatum n'apportera rien, je crois que ce n'est pas parce que les groupes armés ne veulent pas que le processus aboutisse. Ce que Diaga a dit, il est vrai que c'est nous qui sommes partis vers la communauté internationale, parce que nous nous disions que le processus devrait aller jusqu'au bout, pour finaliser et aller à la phase de la consolidation de la paix. Et pour arriver à cette phase-là, il ne fallait pas qu'il y ait encore une fois des groupes armés qui sont encore en brousse. C'est comme ça que nous sommes allés vers la communauté internationale. Et la communauté internationale a accepté de nous recevoir et de dire, voilà, nous pouvons aussi faire quelque chose pour que l'on finalise exactement la question, étant donné que la République démocratique du Congo passe à la deuxième phase qui consiste à consolider la paix dans les zones qui étaient jadis contrôlées par les groupes armés. Et donc, nous pouvons donner l'espoir à tous les Congolais qui nous écoutent que nous sommes déterminés et décidés à faire la paix. C'est pourquoi nous disons que cette phase, qui est la dernière, comme l'a dit Diaga, Et ça, c'est la communauté internationale qui nous dit, nous devons saisir cette chance pour que les choses aillent de l'avant. Cette phase est déterminative pour nous, les groupes d'armées. Nous sommes disposés, nous sommes prêts à donner tous les combattants afin que l'on finalise la question des groupes d'armées. Mais nous aurions souhaité aussi que le gouvernement fasse un pas, de la même manière que nous avons fait un pas vers la communauté internationale. La communauté, la Monique a accepté et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour finaliser la question. Il est aussi souhaitable que le gouvernement, qui ne doit pas seulement se limiter à l'ultimatum, mais il doit aussi s'engager dans les processus dans lesquels nous sommes et à permettre à ce que les choses aboutissent. Pour que le peuple congolais ne dise pas encore que non, comme celui du Katanga qui a dit, nous sommes habitués à ça. Non, c'est pas question d'habitude, c'est un problème de la décision. Nous sommes décidés à mettre fin à tout ce qui est groupe armé et construire la paix dans notre pays.
Joseph Assanda, vous êtes décidé à mettre fin à tout ce qui est groupe armé, mais également, ce n'est pas la première fois qu'on entend cette chanson. Et vous allez vers la communauté internationale, mais plusieurs fois vous vous êtes plaint que le gouvernement ne tenait pas ses promesses, que ce processus était entaché de beaucoup d'irrégularités. Comment peut-on vous croire cette fois-ci?
Oui, c'est parce que nous sommes Congolais, nous devons sécuriser notre population, nous devons mettre notre population à l'aise, notre population doit rester dans la paix et la véritable. C'est pourquoi vous pouvez nous croire. Nous savons que le gouvernement ne respecte pas ses engagements, mais nous avons respecté nos engagements depuis le programme Amani. Nous avons donné les combattants qu'il y avait et nous avons signé les accords pour donner tous les combattants. Bon, subitement, le programme Amani, on a dit, c'est fini, c'est maintenant le Starek. On s'est dit, il n'y a pas de problème. Dans le cadre du Starek, finalisons la question des combattants qui sont encore en brousse. Et donc, nous pensons que c'est nous qui sommes allés vers la communauté internationale pour finaliser la question et la communauté internationale nous aide. Nous demandons aussi au gouvernement, de la même façon que nous avons la bonne foi de finaliser la question des groupes armés, que le gouvernement aussi s'engage à appuyer. Parce que si le gouvernement ne fait pas un pas, les choses ne vont pas aller de l'avant. Je crois que, comme la communauté internationale est décidée à finaliser la question avec nous, le gouvernement aussi devrait appuyer. Et non seulement en disant au FARDC, allez voir les combattants qui sont là, en disant à la FMI, allez identifier ces combattants, mais aussi matériellement, financièrement, faire quelque chose pour montrer à la communauté internationale qu'ils sont aussi déterminés et engagés. Le gouvernement doit aussi faire proprement ce travail qui est appuyé par la communauté internationale pour que nous et la communauté internationale Et le gouvernement, nous puissions nous rassurer que cette fois-ci, nous avons fait proprement notre travail et nous avons terminé. Diaga l'a dit, et on veut maintenant dire qu'il faut foi, vous n'existez plus parce que nous vous avons tous identifié, donc il n'y a plus qu'il faut foi. À propos, vous n'existez plus parce que nous vous avons déjà identifié. Merci. Et à Koutouma, vous n'existez plus parce que nous avons déjà identifié. Et ce travail-là, ça doit être l'engagement de toutes les trois parties. Merci. Nous, les groupes armés, le gouvernement et la communauté internationale pour mettre fin à tout ça.
Merci.
Parce que, monsieur le journaliste, la consolidation de la paix voudrait amener toutes les parties concernées par les problèmes, par les conflits, à s'impliquer et à mettre fin, une seule fois pour toutes, tous les problèmes qui existent.
Merci Joseph Assanda. Professeur Moïla Chiembe, vous avez suivi Ndiaga Diane de la MONUC, Joseph Assanda des ex-groupes armés. Il y a une volonté manifeste de part et d'autre de différents acteurs de mener à bien ce processus. Mais quand on voit dans un passé très récent, on a l'impression que c'est parti sur des mauvaises bases. Peut-on espérer vraiment quelque chose?
Bah, écoutez, si j'ai bien compris ce qui a été dit, j'avoue que il y a quand même quelque chose qui ne marche pas dans ce qui a été dit tout à l'heure. Parce que d'une part, le gouvernement de la République a lancé l'ultimatum. On peut espérer que un ultimatum, c'est un acte de guerre. Le gouvernement, comme un individu, un chef de famille, la patience a ses limites. Il y a longtemps que le gouvernement de la République négocie avec les chefs de guerre. Une bonne partie sera liée, il y a un résidu qui ne veut pas, ou qui pose des conditions. Alors, si le gouvernement lance un ultimatum, ça suppose que, de deux choses l'une, ou bien le gouvernement de la République a les moyens de contraindre les ce fameux résidu, c'est-à-dire, on peut supposer que ces gens-là, ayant épuisé toutes les procédures que la République prévoit, même s'ils prétendent être en relation avec la communauté internationale, je pense que la communauté internationale ne peut pas enjamber passer par-dessus le gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors, si le gouvernement lance l'ultimatum, on peut lui faire confiance en espérant que cette fois, il a bien les moyens en main, ou bien le résidu se rend, ou alors, s'il ne se rend pas, évidemment, il doit faire face à la menace, c'est-à-dire à l'usage de la force, qui est le droit pour la République de mettre fin à cette guerre qui a tant duré, même si toutes choses étant telles par ailleurs, on peut comprendre que avec les épisodes de négociations, il y a eu peut-être que certaines choses n'ont pas été réalisées, mais c'est pour montrer qu'on est là à la limite, vraiment, à la limite. J'ai bien écouté le représentant des ex-combattants ou des groupes armés. Bien entendu, s'il y a des choses à dire, ils doivent d'abord se rendre. Et s'ils se rendent, en ce moment-là, le gouvernement de la République, la communauté internationale, la MONUC, peut, après qu'ils se soient rendus sans condition, discuter éventuellement de telle ou telle chose qu'il faut donner ou s'il y a des réparations à faire, mais on ne peut pas éternellement entendre des gens qui ont des revendications. C'est inadmissible, à la limite, c'est inacceptable. Je pense que, vu d'ici les Congolais de l'étranger, comme je présume les Congolais de l'intérieur, tout le monde en a marre de cette guerre plus dure, des gens qui posent toujours des conditions. On peut espérer cette fois que le gouvernement de la République ne s'est pas aventuré dans un ultimatum que sais-je, de plaisanterie ou de rigolade, et que cette fois, le gouvernement doit se donner les moyens, ou bien le résidu du groupe armé se rend, et s'il ne se rend pas, évidemment, il faut le contraindre par la force.
Professeur Moïla, il y a l'ingénieur Charles Kiona de Lubumbashi au Katanga qui dit, avant de lancer cet ultimatum aux groupes armés, le gouvernement et la MONU ont-ils pensé aux mesures d'encadrement efficaces parce que les effectifs vont augmenter, que ce soit dans l'armée, tout comme au rang des mobilisés dont l'encadrement continue à poser problème?
Bien entendu, on peut supposer de bonne foi, je présume, que le gouvernement ne peut pas agir à la légère. Si l'engagement a été pris pendant les négociations, une bonne partie des combattants s'est rendue. Il reste un groupe, je ne sais pas, de 2000 ou de 3000, on ne sait pas encore exactement le nombre. Alors si le gouvernement de la République prend l'engagement de lancer un ultimatum comme acte de guerre, ça suppose quoi? Ça suppose que le gouvernement a mesuré les conséquences de son geste ou de son acte, et qu'il est prêt soit de voir ces hommes et ces femmes se rendre comme première conditionnalité, et ensuite discuter. S'il y a des discussions, ben, ils doivent d'abord se rendre. Je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas avoir deux pas de mesure. Ou bien on redémarre encore des discussions, mais auquel cas il ne faut pas un ultimatum. Si le gouvernement pensait, je présume qu'il y a encore des discussions sur tel ou tel point, des demandes des combattants ou des hommes en armes, à ce moment-là, il ne faut pas lancer l'ultimatum. Si le gouvernement lance l'ultimatum, on peut lui faire acte de foi qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ne plus reculer.
Ndiaga, Diane, vous venez de suivre le professeur Moïla. Il dit que les groupes armés ne peuvent enjamber le gouvernement congolais pour parler directement avec la communauté internationale. Mais quelle forme de plaidoyer la MONUC fait-elle auprès du gouvernement pour qu'il puisse tenir ses engagements vis-à-vis des groupes armés?
Écoutez, ce que je peux dire à la matière, je suscris pour une bonne part à l'analyse du professeur. La MONUC n'est pas le gouvernement, c'est le gouvernement qui décide. La MONUC est un partenaire du gouvernement pour aider à trouver des solutions pérennes. Il est évident que, avant de lancer ce projet, nous avons réfléchi sur la prise en charge de ces gens lorsque ils vont soit intégrer l'armée congolaise, soit être démobilisés. Et nous, notre objectif pour ces groupes armés est d'avoir le maximum de possibles personnes qui choisissent la démobilisation. En ce moment-là, nous avons déjà un programme qui est là, de réinsertion sociale, qui va permettre à ces gens-là, et je le répète, de reprendre une vie sociale normale. Allez-y.
Et cet ultimatum prend fin à quand exactement?
Bon, d'une manière générale, comme je vous ai dit, nous sommes entendus pour faire le programme dans les 45 jours, comme je l'ai dit, pour essayer, avec les équipes conjointes que nous avons, de toucher tous les groupes concernés, d'aller à l'endroit où ces groupes concernés, qui nous ont déjà donné les lieux où ils sont, à l'exception de quelques groupes qui nous ont donné des lieux, qui nous ont dit, si vous arrivez à tel endroit, vous allez nous trouver là-bas. Donc, la première phase de l'exercice donc consiste à aller au niveau de tous ces groupes-là, et à chaque fois qu'on arrivera chez un groupe, comme je l'ai dit plus tantôt, on traitera le groupe, on déterminera ceux qui vont choisir l'armée, ceux qui vont choisir la vie civile, c'est-à-dire la démobilisation. Donc, pour parler d'ultimatum, nous savons que nous avons des 45 jours, c'est ce que nous avons prévu en tout cas, pour toucher tous les groupes.
Et les 45 jours prennent 5 ans.
Bon, comme nous avons commencé avec le groupe de Kinshasa, et que nous avons réellement commencé à traiter le groupe Kinshasa depuis le 5, où nos équipes sont arrivées sur place. Parce que cette fois-ci aussi, il faut comprendre que, au lieu de faire comme on avait l'habitude de, comme ça s'était fait souvent avant, c'est-à-dire que les gens vont dans des endroits en train d'attendre des soi-disant combattants ou des combattants qui n'arrivent jamais, nous avons un peu tiré les leçons du passé. Donc, nous assurons d'abord que le groupe est sur place et nous arrivons. Donc, on peut prendre comme point de départ le 5 où nos équipes ont commencé à traiter les qui sont fois.
Joseph Assanda, les groupes armés, plusieurs fois dans cette émission, comme je l'avais presque déjà dit, ont exprimé leur frustration, ils ont accumulé beaucoup de frustrations, il y en a qui sont aigris pour n'avoir pas bénéficié de différentes promesses, surtout en ce qui concerne l'insertion politique. Sur quoi peut-on nous baser aujourd'hui pour vous croire finalement?
Sur quoi pouvez-vous vous baser aujourd'hui pour nous croire? C'est sur notre détermination et notre engagement à faire la paix dans notre pays.
Qui n'est pas la première.
Donc, oui, qui n'est pas la première, mais nous sommes toujours engagés, et entre-temps cautionnés par le gouvernement. Mais aujourd'hui, nous voulons bien faire la paix, et rien que la paix. Rassurez-vous, je voulais bien apaiser le professeur, qui a bien dit, Si nous sommes allés à la communauté internationale, à la MONUC, c'est pas parce que la MONUC va prendre la place du gouvernement pour décider. Mais c'est parce que la MONUC a, entre autres missions, je crois, d'accompagner le processus de paix ici chez nous au Congo. Et donc, parce que nous sommes engagés, nous sommes déterminés à faire la paix et à finaliser avec la question des groupes armés, il fallait quand même que nous allions à la MONUC pour aller leur dire, voilà, nous sommes restés avec des résiduels. Je vais vous donner un cas. Au sud de vous, par exemple, l'intégration au vrai sens n'était pas vraiment faite comme on s'attendait. Et donc, il y a eu beaucoup de résiduels qui sont restés en brousse, et nous nous sommes dit que ces gens-là, pour qu'ils ne puissent pas constituer une bombe à retardement, bien que ils ont défendu longuement leur pays, nous avons vraiment défendu notre pays, nous ne voulons plus que quelqu'un reste en brousse. Nous voulons maintenant travailler pour le bien-être social de notre population après l'avoir protégé contre les agresseurs. C'est pour cette raison que nous sommes partis, nous avons rencontré la Monique qui nous a reçus, nous avons eu même des discussions avec les membres du gouvernement qui nous ont dit, ok, mais ce que nous demandons, de la même façon que nous nous engageons à faire la paix, de la même façon que la Monique s'engage à nous accompagner, c'est de cette même façon que le gouvernement doit aussi s'engager pour que cette fois-ci nous fassions proprement notre travail et nous rassurer que c'est terminé. Là, les professeurs pourraient être contents parce que, bien sûr que c'est une guerre à répétition dans notre pays, mais ce ne sont pas nous les groupes armés qui avons mené cette guerre à répétition. Ce ne sont pas nous. Nous avons au contraire défendu et protégé notre population. Mais maintenant, nous décidons de faire la paix avec notre gouvernement, en présence de la MONUC, de la communauté internationale. Je crois que c'est un acte de bonne foi qu'il faut encourager. Et donc, nous demandons à tout le peuple congolais de nous encourager parce que nous faisons un acte de bonne foi, merci. Un acte de loyauté.
Merci. Je crois que le peuple congolais qui vous suit vous prendra au mot en observant ce qui va se passer dans les prochains jours. Professeur Moïla, il y a un auditeur, cet auditeur Ngiko Kabaka Gilbert de Goma au Nord Kivu qui dit « Pourquoi le gouvernement ne joue-t-il pas sans jeu avec la communauté internationale et les groupes armés? Ce nouvel ultimatum n'a pas de raison d'être car l'intégration et la réinsertion n'ont jamais réussi en RDC. »
Mais disons que, à entendre ce qu'il vient de dire le représentant de personnes armées ou ceux qui se sont rendus, ceux qui sont restés, enfin dont on dit les troupes ou les groupes individuels, si nous partons du principe que il représente les hommes qui se sont battus contre les agresseurs ou les personnes étrangères qui ont fait la guerre à notre pays. On peut comprendre que ces gens-là se disent en des quatre matins, nous nous sommes battus, il y a le DDR, on veut se rendre, ceux qui veulent rester dans l'armée ou ceux qui veulent reprendre les activités civiles, peut-être qu'il y a des récriminations, des choses qui n'ont pas été faites. Ça peut être compris, on peut discuter. Mais la discussion a déjà eu lieu. Et que si vraiment, ce qu'il dit, si on le prend au mot, il ne peut pas conditionner la reddition de ce petit groupe de gens qui restent, même s'il y a des problèmes, au motif qu'il faut négocier, il faut que la Monique s'y implique et qu'on fasse telle ou telle chose, alors que le gouvernement de la République lance un ultimatum. Donc si j'ai bien compris pour notre compatriote qui a pris la parole et qui représente le reste des hommes en armes, s'il est vraiment patriote, il doit d'abord convaincre ces hommes à se rendre sans condition. Et quand ils se sont rendus sans condition auprès de la Monique, et en ce moment-là, on sera dans les délais que le gouvernement a donné de son ultimatum, la Monique peut, après avoir recueilli ces gens, dire au gouvernement, voilà, les problèmes qui se posent pour tel ou tel groupe, etc. En ce moment-là, on peut discuter, le cas échéant, de ce qui reste à faire. Mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des négociations préalables y compris avec la Monique, alors que le gouvernement de la République a lancé un ultimatum. Donc, je pense qu'il y a là quelque chose qu'il faut clarifier. Les résidus des Congolais qui se sont battus pour défendre leur pays, c'est à leur honneur, mais ils doivent maintenant accepter de se rendre sans condition à l'ultimatum que le gouvernement a lancé, quitte maintenant, s'il y a des choses à dire ou à demander au gouvernement, de présenter des revendications après s'être rendu sans condition à la Monique.
Merci, professeur.
Et c'est dans ces conditions-là qu'ils peuvent être respectables. On peut même penser qu'il y a encore du patriotisme dans ce genre. Sinon, on peut considérer que c'est une énième manière de traîner les pas et de traîner le gouvernement de la République dans la boue.
Merci, professeur. Province du Nord Kivu, nouvel ultimatum lancé aux groupes armés par le gouvernement pour intégrer officiellement les FRDC ou rentrer à la vie civile. C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. Comment analyser ce nouvel ultimatum adressé aux groupes armés du Nord Kivu et où en est-on avec le processus d'intégration et de réinsertion sociale des groupes armés dans les deux Kivu? Nos invités dans cette émission sont Joseph Assanda, porte-parole des ex-groupes armés du Nord et Sud Kivu, Ndiaga Diane, chef des opérations pour le DDR et DD3R de la MONUC, professeur Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. On se retrouve juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Où en est-on avec le processus d'intégration et de réinsertion sociale des groupes armés dans les deux Kivu? Plusieurs préalables sont à remplir pour que l'intégration ou la réinsertion sociale des groupes armés aboutisse rapidement. Didier Bitaï, qui est représentant des ex-groupes armés au Comité national de suivi des accords de paix de Goma, propose la réévaluation du processus de paix et la relance d'un dialogue franc et sincère entre le gouvernement et les ex-groupes armés. On écoute Didier Bitaki au téléphone de Samuel Kachak.
Pour que l'intégration sociale, politique, militaire, policière puisse aboutir, il faut la réévaluation du processus de paix. C'est-à-dire une discussion qui doit mettre au prix le représentant délégué du gouvernement, le représentant de ces groupes armés qui sont encore dans la région, et même ceux qui sont à Kinshasa. Il faudra que les gens qui ont presté, qui remplissent les conditions, puissent se retrouver dans les instances où les décisions se prennent sur le processus de paix à l'Est. Ils pourront donner des propositions, et ces propositions-là vont amener à ce que la stabilité s'installe. Parce que l'intégration n'a pas réussi. Est-ce qu'il faut-il faire la guerre? Non. La violence ne résout jamais une autre violence. Donc nous pensons que le dialogue franc et sincère, avec le respect des engagements, pourra conduire à la réussite de l'intégration d'une manière générale.
Joseph Assanda, vous venez de suivre Didier Bitaki. Pour lui, l'intégration et la réinsertion ont échoué. Quel est votre point de vue?
Oui, parce que nous avons suivi, nous avons été tous dans ce cadre du processus de l'intégration à Mani. Et donc, il y a beaucoup de choses qui restent à faire par le gouvernement. Et c'est pourquoi nous disons qu'il serait souhaitable que le gouvernement fasse un pas. Parce que, comme le dit le professeur, moi je crois que nous sommes des patriotes et il peut nous féliciter pour un grand travail que nous avons fait. Si nous demandons, j'ai pas esquivé la question, mais j'ai dit l'ultimatum lancé par le gouvernement. Cet ultimatum a été lancé après que nous ayons demandé l'intégration de nos résiduels. Et donc, c'est un acte de patriotisme que nous avons montré au gouvernement. Nous disons que nous sommes prêts, nous ne pouvons pas faire la guerre. Parce que la violence, comme l'a dit Bitaki, la violence ne peut pas répondre, ne peut pas résoudre les problèmes. Et donc, le dialogue franc et sincère permettra à ce que nous puissions arriver à trouver des solutions aux problèmes qui sont nôtres. Nous allons donner, nous donnons sans condition nos combattants. Mais nous aurions souhaité aussi que les gouvernements de la République, parce que notre valeur, nous, en tant qu'êtres humains, se trouve dans le respect de nos engagements et des textes que nous signons. Il serait souhaitable que le gouvernement de notre République, qui a signé des textes avec nous, les groupes armés, qui a pris des engagements avec nous, les groupes armés, arrive aussi, à s'impliquer sérieusement pour faire proprement ce travail qui reste à faire des groupes résiduels que nous faisons avec la MONUC. Et donc, nous le faisons conjointement. Deux, que le gouvernement de la République arrive à respecter quand même ses engagements dans le cadre de l'intégration politique des acteurs politiques issus des groupes armés. Trois, que l'intégration des forces de la police aussi se fasse proprement et non traîner les pieds parce que on veut ceci, on veut cela. Et donc, nous savons que si nous nous mettons ensemble et nous faisons proprement le travail, rien ne peut nous être difficile et tout peut aller et la paix va régner sérieusement et ça va être même la stabilité à l'est de notre pays.
Ndiaga, Diane, quels pourraient être d'après vous les préalables pour la réussite de l'intégration et la réinsertion sociale des groupes armés?
Bon, je dois quand même rappeler que si nous sommes arrivés même à ce stade du projet PDR de groupe résiduel, c'est parce que le gouvernement effectivement s'est impliqué. Parce que je rappelle encore une fois de plus que même si certains disent que le gouvernement, comme notre ami Assanda, traîne les pieds, selon eux, mais il faut reconnaître que même si nous avons pu arriver là où nous en sommes, c'est parce que le gouvernement, aussi bien au niveau de Goma que de Sud-Kivu, que de Kinshasa, ont donné quand même leur feu vert à cette opération-là. Donc je pense que le gouvernement, et je ne défends pas le gouvernement, mais je dois reconnaître que le gouvernement est dans un esprit, je pense, de dialogue. Mais en même temps aussi, il faut comprendre que il y a des fois des demandes, ça je parle d'une manière franche, il y a des demandes qui sont faites par certains chefs de groupes armés qui ne sont pas, je dirais, patriotiques entre guillemets.
Lesquels, par exemple aussi,
non, je ne cite pas de groupes précis, mais j'entends dire certaines revendications qui sont plutôt matérielles, personnelles, que pour le bien-être de la population supposée défendue. Ça, c'est entre guillemets. Ce n'est pas tout le monde, mais certains. Donc, pour revenir à ce problème de réinsertion, là, je suis tout à fait d'accord que dans beaucoup de programmes passés, il y a eu vraiment des fois un délai entre le moment où je prends le combattant qui est démobilisé, entre le moment de sa démobilisation et la mise en place de son programme. Donc, il se passe des fois un délai long, qui est dû certainement des fois à des lourdeurs administratives pour décaisser les fonds pour certains projets qui, en ce moment-là, effectivement, peuvent être un handicap pour la réussite du programme. Mais, dans le dernier programme que j'ai dit des groupes de vidéos, nous avons essayé de faire de notre mieux avec le plan Starek, avec l'unité de stabilisation de la MONUC, la communauté internationale, pour essayer de réduire au maximum ces délais pour que le combattant qui est démobilisé ne puisse pas sentir le temps entre le moment de sa démobilisation et le début de son programme de réinsertion. Ça, c'est très important. Pour le militaire aussi, il est important que ce militaire celui qui accepte, qui dit que moi je vais être intégré dans l'armée, il faut penser à son alimentation, il faut penser à son instruction, hein, il faut le former. Parce que, quoi qu'on dise, la majeure partie des maïmaïs qui sont là, on doit les former. Ce sont tout simplement des gens qui se sont, je dirais, fait militaire, mais qui en réalité n'ont subi aucune formation militaire.
Diaga, allez-y, terminez votre idée.
Non, je disais donc, d'où aussi des fois la réaction de certains éléments intégrés, même présentement dans les FARDC. Donc il faut la prise en charge, une bonne prise en charge, une bonne instruction, formation, avant de relancer le gars dans la structure militaire.
Alors, je vais vous demander une très brève réponse. Comment alors réduire toutes ces formalités administratives pour que ce soit au niveau et de l'intégration et de la réinsertion, que les choses, le processus puisse quand même s'accélérer? Très bien.
C'est pour cela que Starek est là, c'est pour cela que nous avons aussi notre unité de stabilisation, pour que vraiment tout se passe le plus rapidement possible, que les délais soient le plus réduits possible. Et pour le projet, par exemple, dont nous parlons, déjà, certains fonds sont disponibles pour les premiers qui seront démobilisés, pour que entre la démobilisation et le début du programme, il y ait vraiment un minimum de temps. Donc, des efforts ont été réellement faits dans ce sens, surtout pour ce projet-là.
Professeur Moïla, le dialogue franc et sincère comme l'un des préalables pour la réussite de l'intégration et la réinsertion, à part cet aspect, y a-t-il d'autres préalables, d'après vous?
Non, je pense que au niveau où nous sommes arrivés, il n'est plus question de lancer des préalables. Le dialogue a eu lieu, les accords ont été signés, on sait ce qui figure dans les documents, les engagements que le gouvernement avait pris, tout le monde les connaît, peut-être qu'à ce jour, tous les engagements n'ont pas été tenus pour des raisons que je ne veux pas invoquer ici. Je ne dis pas que le gouvernement a tout à fait raison pour n'avoir pas fait telle ou telle chose, mais on ne peut pas lui donner tort non plus d'avoir fait une chose ou de n'avoir pas fait une autre. Mais ce qu'on doit dire là, c'est qu'il y a une question de principe. Pour l'instant, il est dans l'esprit de tous les Congolais que cette guerre finisse et qu'on en finisse avec le résidu des hommes en armes qui se rendent. Alors, dès qu'ils se seront rendus sans condition, je pense que c'est non seulement leur honneur, mais il y aura de la crédibilité dans la parole qu'ils portent pour dire, ben voilà, nous avons défendu notre pays dans les conditions que l'on sait ou que l'on ne sait pas. On nous a demandé de nous engager dans un processus. Nous nous sommes engagés, mais ce processus ne marche pas sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Et à ce moment-là, le gouvernement ne pourra plus avoir la prétention de dire, ben voilà, c'est des gens qui ne veulent pas s'engager, qui veulent continuer la guerre pour rendre encore plus miséreux les populations qu'ils prétendent défendre.
Merci.
À ce moment-là, leur parole sera crédible parce qu'ils se seront rendus et on peut demander au gouvernement de la République, ils parlent de la MONU, de la communauté internationale et d'autres Congolais, mais il y a le Parlement.
Merci.
Au-delà du gouvernement, il n'y a personne d'autre qui puisse dire le gouvernement a bien fait, donc restez sans bouger. Non. Moi, je pense qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est qu'ils se rendent.
Merci,
quand
professeur.
Ils seront rendus. À ce moment-là, on peut examiner le reste des choses qu'on leur doit, que le gouvernement leur doit.
Merci. Avant d'aborder la dernière partie de cette émission qui concerne les conclusions, il y a des auditeurs qui nous écrivent. Jean-Pierre Ntamboué de Lubumbashi au Katanga. Cet ultimatum ne va-t-il pas nous amener à des nouveaux tiraillements avec nos voisins? Ne poussera-t-il pas certains de nos voisins à envoyer leurs troupes aux frontières pour raison d'insécurité? Claver Kassa de Goma en Nord-Kivu, cet ultimatum est une simple distraction. Le processus d'intégration a échoué car ceux qui étaient déjà prêts pour ce processus sont retournés en brousse et sème la désolation dans la population que le gouvernement et la MONUC se préparent d'abord sur tous les plans, puis ils lanceront ce processus une fois pour toutes. Kabawisi de Lubero Nord-Kivu, peut-on savoir le nombre de fois que pareils ultimatums ont été lancés aux groupes armés du Kivu et qu'est-ce qui nous garantit que ce dernier sera respecté? Dieudonné Mutuma et Kabamba de Goma en Nord-Kivu, je crois que le temps de la guerre est déjà dépassé. Nous avons besoin d'un souffle nouveau et de paix au Kivu. Julien de Bandundouville, quelles sont les garanties de la paix une fois que ces groupes armés seront intégrés dans les FRDC? Joseph Assanda, je commence par vous. Brève conclusion par rapport à cette émission.
Oui, brève conclusion. Je vais dire que nous, comme je l'ai dit, je ne cesse pas de le dire, nous sommes prêts, nous sommes engagés à faire la paix. Sans condition, nous allons donner nos éléments pour ces derniers processus. Les résidus tous vont intégrer, même tous ceux-là qui ne voulaient pas, tout le monde. Nous allons tout faire pour que tout le monde intègre. Seulement, nous demandons à ce que le gouvernement qui a accepté de faciliter pour que les choses aillent de l'avant, puisse faire un effort pour que nous puissions vraiment arriver au bout du processus.
Merci.
Et qu'il garantisse la paix exactement.
Ndiaga, Diane, votre conclusion également.
Non, ma conclusion, moi je suis en tout cas optimiste. Je pense que, comme l'a dit Assanda, la plupart des groupes armés résiduels vont effectivement entrer dans le processus pour se déterminer entre la démobilisation ou bien l'intégration dans l'armée. Et que je les encourage, nous les encourageons tous à le faire pour la paix.
Merci.
La paix, comme on dit, n'a pas de prix.
Professeur Moïla, votre conclusion.
Oui, mais moi je peux dire qu'il faut qu'ils se rendent. Donc la reddition du groupe résiduel doit se faire sans condition. Et lorsqu'ils se seront rendus en ce moment-là, le gouvernement de la République doit prendre les comptes, c'est-à-dire ses engagements, faire en sorte que le processus se termine au meilleur des intérêts et de la République et de ses compatriotes qui se sont rendus, soit pour
Merci, professeur Maïla. C'est par vous que nous terminons cette émission. Merci à tous nos invités d'avoir accepté de participer. Guy Mathieu, Samuel Kassak, sous la coordination de Martin Sebouzangwe, ont constitué l'équipe rédactionnelle. La mise en onde est de Guy Manzangou. Au revoir.